Bonjour à tous. Pour introduire notre réflexion ce matin, je vous propose de lire deux textes de l'apôtre Paul. Le premier se trouve dans la deuxième lettre aux Corinthiens, de la fin du chapitre 4 au début du chapitre 5. Nous savons en effet, dit Paul, que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus. Et nous fera paraître avec vous en sa présence. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Nous le savons en effet, si notre corps, cette tente que nous habitons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle, qui n'est pas l'œuvre de l'homme. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir. Et un deuxième texte dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ, recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui, en partageant sa gloire. Voici deux textes de l'Écriture qui, dans la même ligne que ce que nous avons vu dans l'introduction, évoquent cette question de la vie éternelle et de notre résurrection au jour de Jésus-Christ. Mais, comme nous l'a justement rappelé Laura, dans ces passages, et même à chaque fois en fait qu'il traite de ce point, l'apôtre Paul, plutôt que de simplement se contenter de nous présenter cette espérance future, il vient nous montrer que celle-ci est appelée à radicalement influencer notre présent. Aujourd'hui, nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, dit Paul, mais sur les réalités encore invisibles. Alors, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté ici. Si on en croit Paul, la vie de tout chrétien devrait normalement être entièrement modelée par cette perspective de l'éternité. Cependant, j'ai parfois l'impression qu'il n'en est pas toujours ainsi pour nous. Et qu'au contraire même, cette espérance n'a pas vraiment d'impact pratique dans nos quotidiens surchargés. On y croit, bien sûr. On l'espère, oui. Mais on la renvoie néanmoins trop vite à cet avenir lointain et un peu flou et sans véritables conséquences concrètes pour maintenant. Pourtant, plus j'y réfléchis, et je vous avoue que c'est quelque chose qui m'a beaucoup trotté dans la tête pendant le confinement, plus j'y réfléchis et plus je suis convaincu qu'il y a ici une des clés les plus essentielles de la vie chrétienne quotidienne. Cela me semble en tout cas vraiment transparaître dans tous les écrits de Paul et des autres auteurs du Nouveau Testament. Aussi, j'avais vraiment à cœur ce matin que l'on s'attarde sur cette question et que l'on puisse voir justement donc en quoi cette pensée de l'éternité peut fondamentalement transformer notre vie présente. Et en fait, je vous propose de découvrir quatre points. Quatre réalités que le fait de garder l'éternité constamment présente dans le cœur sera en mesure de nous offrir aujourd'hui. Nous allons les détailler Et j'espère vraiment donc qu'elles pourront nous ouvrir à une dynamique de vie tout autre sur cette terre. Nous démarrons avec le premier point. La pensée de l'éternité pour demain vient d'abord nous offrir un recentrage essentiel de nos priorités pour aujourd'hui. Je m'explique. Nous courons tous après tellement de choses dans la vie. Je vous donne quelques exemples en vrac, parmi les plus répandus peut-être. Nous courons tous d'abord, d'une manière ou d'une autre, après la réussite. À tous les niveaux, cette recherche de la réussite qui motive nombre de nos choix de vie et qui mobilise quantité de notre énergie. Réussir notre travail, réussir notre famille, réussir notre vie d'église, réussir, ainsi de suite. Il suffit de voir les exemples. Il suffit de voir, par exemple, les efforts que nous sommes prêts à consentir pour être valorisés ici ou là ou pour obtenir une marque de reconnaissance ici ou là. Nous courons tous ensuite après la sécurité. Cette sécurité de se savoir en bonne santé ou cette sécurité d'avoir un compte en banque suffisamment garni. Et là aussi, c'est une préoccupation qui monopolise grandement nos pensées. Ou encore, nous courons tous simplement après la jouissance dans la vie, la jouissance matérielle notamment. Et dans notre société de loisirs et de plaisirs, on sait là encore à quel point cette course peut occuper nos quotidiens. Si vous en doutez encore, comptabilisez juste le temps que vous passez à agrémenter votre logement ou à vous divertir d'une manière ou d'une autre, et cela vous sautera sans doute très vite aux yeux. Oui, toutes ces choses, toutes ces courses prennent de la place en nous. Elles prennent beaucoup de place. Trop de place ? Oui, probablement. Probablement, si on les compare au temps que nous prenons pour ce que Dieu, lui, considère comme essentiel, à savoir nous consacrer à le connaître, à lui ressembler, et à remplir les différentes missions qu'il nous confie. Voici pourtant, vous serez d'accord avec moi, ce qui, en tant qu'enfants de Dieu, devrait tous nous faire courir en priorité. Chercher d'abord, au travers d'un contact toujours plus assidu de l'Écriture, à toujours mieux connaître notre Dieu. Sa nature, son caractère, ses qualités, ses promesses, et ainsi de suite. Sonder ensuite quotidiennement notre cœur pour repérer ce qu'il y a encore à améliorer dans notre marche à la ressemblance de Jésus. Et réfléchir enfin régulièrement à ce qu'il attend de nous dans ce monde et le mettre en œuvre sans tarder. Ce sont des courses plus difficiles, oui. Des courses qui nous obligeront à laisser certaines choses en route, c'est vrai. Des courses qui demanderont une discipline de vie, c'est certain. Des courses à contre-courant du monde et de nos penchants naturels aussi, sans aucun doute. Mais ce sont nos courses, je le répète, si nous avons choisi de suivre le Christ. Alors il nous faut y aller avec détermination et sans nous laisser manger par toutes ces autres courses secondaires. Mais du coup, pour en revenir à ce qui nous occupe ce matin, vivre au quotidien avec la pensée de l'éternité dans le cœur va justement nous être d'une grande aide pour persévérer à courir ces bonnes courses. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cela va nous rappeler sans cesse notre objectif et notre destination finale. Et ainsi, nous permettre de rester focalisé dessus, sans nous laisser embarquer par le rouleau compresseur de nos vies. L'apôtre Paul disait « Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » ce verset me semble tellement fondamental. Viser constamment la couronne indestructible de l'éternité dans nos vies. Garder la pensée de cette couronne indestructible à chaque instant de nos quotidiens. Voici ce qui nous permettra de ne pas nous perdre en route, mais de garder le cap, malgré les privations parfois, les renoncements, peut-être. Mais tel le sprinteur qui s'entraîne plusieurs années durant en gardant sans cesse en ligne de mire la perspective du jour J. Parce qu'il sait que c'est cela qui compte vraiment. Non, notre vie ici-bas n'est pas une fin en soi. Elle est d'abord une préparation à la prochaine. Et nous ne devons jamais oublier cette vérité essentielle. Ainsi, voici notre premier point. L'espérance de la vie éternelle vient m'influencer aujourd'hui pour m'offrir un recentrage essentiel de mes priorités. Nous continuons avec la deuxième vérité. La pensée de l'éternité pour demain vient également nous offrir pour notre présent un lâcher-prise salutaire. C'est un peu en fait le pendant négatif du point précédent. Quand justement nos objectifs de bonheur, de réussite ou de sécurité ici-bas, qui ne sont pas mauvais en soi bien entendu, mais quand ces objectifs ne sont pas atteints et que, à cause de cela, nous pourrions alors doucement glisser vers l'amertume, la rancœur ou la déception. En quoi alors garder la pensée de l'éternité au cœur va être pour nous ici une bénédiction infiniment précieuse? Eh bien, parce que cela va venir nous rappeler, juste, mais avec une grande force, que le meilleur est devant nous, qu'il viendra un jour. Et donc, que nous pouvons lâcher prise si pour l'instant, il nous est inaccessible d'une manière ou d'une autre. Le ciel n'est pas pour la terre. Et nous rappeler cela, accepter cette idée, nous en imprégner même, ce sera effectivement une libération pour nous. Car oui, chers amis, soyons-en convaincus, il y a certainement des traumatismes que nous n'arriverons jamais à dépasser sur cette terre, des blessures dont nous ne guérirons jamais. Il y a probablement des situations pour lesquelles nous ne trouverons jamais de solution, des désirs légitimes qui devront rester inassouvis et des rêves qui ne se réaliseront pas. Il y a même peut-être des injustices contre nous qui ne seront jamais payées et pour lesquels nous n'obtiendrons jamais réparation. Mais toutes ces choses, d'ordinaire, pour les hommes et les femmes que nous sommes, sont autant de fardeaux qui nous lient et qui nous tirent vers le bas. Et on se perd alors dans la quête d'une justice ou dans l'attente d'une demande de pardon qui ne seront jamais prononcées, dans l'espoir d'une guérison qui ne viendra pas, ou au contraire, dans la recherche toujours plus effrénée d'un bonheur qui nous échappera constamment. Ceci est la réalité de notre monde. Mais il n'est pas à en être ainsi pour le chrétien. Non. Pourquoi ? Eh bien, je le répète, parce que lui, il sait que si ces choses bonnes ne viennent pas aujourd'hui, elles trouveront néanmoins un jour leur pleine réalisation. Oui, nous savons qu'au jour de Jésus-Christ, Dieu nous rendra une justice parfaite. Il vengera complètement le mal qui nous a été fait. Il nous guérira enfin de toutes nos blessures. Il comblera enfin tous nos manques, et même plus. Et ainsi de suite. Et vivre avec cette certitude aujourd'hui, oui, cela va nous offrir, je crois, un profond lâcher-prise libérateur. Dieu n'a pas promis le ciel sur la terre. C'est une certitude. Il peut, bien évidemment, exaucer nos prières. Et il le fait, il nous encourage à prier, soyons-en certains. Il le fait plus souvent même, sans aucun doute, que nous pensons à l'en remercier. Mais il n'a pas promis pour autant une résolution complète dès ici-bas de toute chose. Cela me fait penser, même si le contexte du passage est un peu différent, à ce texte d'Hébreux 11 et à l'énumération de tous ces croyants qui ont connu la détresse et qui sont morts dans la difficulté, sans que celle-ci soit résolue. L'auteur parle d'eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les cavernes et les antres de la terre. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Non, Dieu n'a assuré à aucun d'entre eux, ni à aucun d'entre nous, le ciel sur la terre. Mais il nous a promis donc, en revanche, avec certitude, que ce ciel viendra, en son temps, au meilleur temps, et qu'à ce moment-là, il réparera tout ce qu'il y a à réparer, et même davantage. Et c'est donc en nous accrochant à cette promesse, c'est en gardant cette perspective éternelle de résolution complète dans notre cœur, que nous pourrons continuer à avancer au présent, sans nous laisser gangréner et détruire par tous ces manques que nous connaissons ou que nous connaîtrons, en attendant avec patience et confiance ce jour où notre justice et notre plénitude resplendiront enfin. Voici notre deuxième point, un lâcher-prise salutaire. Nous continuons encore. Troisième vérité. La pensée de l'éternité pour demain est aussi pour nous aujourd'hui une source de paix bienfaisante. La paix unique de celui simplement qui connaît à l'avance la fin de l'histoire. Oui, rappelez-vous, si vous avez confié votre vie à Dieu, vous avez reçu une promesse. Oui, vraiment, je vous l'assure, dit Jésus. Je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Chers amis, voici ce qui va vous arriver si vous avez placé votre confiance en Dieu. Vous le savez déjà, puisque Dieu vous l'a dit à l'avance. Ce qui vous attend, c'est l'éternité glorieuse. Mais quelle paix, non, de connaître ainsi par avance ce qui nous sera réservé plus tard. Mesurons-nous le privilège qu'il y a ici? Personnellement, je pense souvent, pour illustrer cette vérité prodigieuse, j'en ai déjà parlé ici, à l'histoire de cet ancien ami à moi à la fac pendant mes études. Il était musulman et il nous est parfois arrivé de discuter de nos fois respectives. Mais lui, je vous assure, il tremblait face à la perspective de la vie après la mort. Il tremblait de peur de ne pas être pris, de peur de ne pas avoir été assez bon, de peur de ne pas en avoir fait assez. Et toute sa vie, m'a-t-il semblé, se construisait sur cette crainte. Il faut que je fasse ça, de peur que. Je dois faire ça, de peur que. Mais quel décalage avec les promesses chrétiennes. Quel privilège connaissons-nous. Récemment, j'ai aussi vraiment ressenti ce décalage de façon plus symbolique. Pendant une soirée que nous avons passée en famille pendant le confinement. Je vous raconte. Ce soir-là, nous avions choisi de regarder un film avec nos deux garçons. Un film d'aventure où chacun des héros ont une quête dangereuse à accomplir et où la mort les attend à chaque tournant. Chacun de nos deux fils s'est très vite attaché à un héros différent, un à l'un, l'autre à l'autre. Axel avait découvert à l'avance que son héros irait jusqu'au bout de l'histoire et qu'il sortirait victorieux. Tandis que Raphaël, lui, ne savait rien du destin de son favori. Leur différence de comportement ce soir-là fut flagrante. Tout au long du film, qui est un long film, j'ai vu Raphaël stressé à chaque fois que le danger se rapprochait. Alors qu'Axel, pour sa part, a traversé la soirée paisiblement. Je vous assure pourtant que les deux personnages ont vécu leur aventure en commun de bout en bout. Leurs doutes, leurs luttes, leurs combats ont été identiques. Ils ont connu la même part de souffrance. Mais néanmoins, toute la perception du film a été différente pour mes enfants. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que l'un s'inquiétait de savoir comment les choses allaient se terminer, alors que l'autre connaissait déjà tout à l'avance. Et je me suis alors imaginé que les pensées de mes enfants étaient précisément celles des héros en question. Vous voyez ce que je veux dire ? L'un vit sa quête en se demandant si chaque nouveau pas qu'il va faire ne sera pas son dernier avant sa chute complète. Alors que l'autre sait pertinemment que, malgré toutes les tempêtes qu'il va traverser, il finira de toute façon par remporter la victoire. Mais quelle différence ! Essayez de l'imaginer avec moi. Essayez de vous mettre à la place de ces deux héros. Essayez, car c'est exactement cette même différence dans la vie. Oui, quel abîme devrait-il y avoir dans la vraie vie entre celui qui croit qu'après la douleur viendra juste le retour à la poussière et celui qui sait que viendra la compensation et la gloire. La souffrance sera là pour les deux et elle fera mal aux deux, on est d'accord. Il n'est pas question d'imaginer que la pensée de l'éternité va rendre nos souffrances moins douloureuses. Non. Mais tandis qu'elle accablera l'un sans espoir de jour meilleur, l'autre pourra trouver la force de l'accueillir dans la paix bienfaisante, de cette perspective du jour où il sait que celle-ci sera entièrement recouverte. Oui, nous connaissons la fin de notre film. Et ça, ça change vraiment tout. Aussi, gardons pour nos quotidiens la pensée de l'éternité dans le cœur afin de ne jamais oublier cette vérité. Afin de toujours nous redire que quoi qu'il nous arrive aujourd'hui, nous sortirons victorieux de tout cela. Une paix unique pourra en découler alors. J'en arrive à la dernière vérité. Après le recentrage, le lâcher prise et la paix, la pensée de l'éternité pour demain nous offre enfin et pour terminer une attente joyeuse pour aujourd'hui. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie. La Bible est claire. Voici ce qui doit faire notre joie. Aujourd'hui, vous l'aurez noté, le temps du Verbe est au présent. C'est cet héritage que Dieu tient en réserve pour nous. Nous avons sans doute de nombreuses manières légitimes d'être heureux ici-bas. Mais aucune ne devrait surpasser ou prendre la place dans nos cœurs et nos pensées de cette promesse que Dieu nous fait et qui est prête à être révélée. Oui, chers amis, dans quelque temps, pas si lointain, la vie est courte, dans quelque temps, nous recevrons notre héritage. Un bref rappel si besoin. Cet héritage, d'abord, sera composé d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre dans lesquelles nous pourrons vivre. Ce sera juste, je pense, question de continuité, un peu comme notre monde actuel. Rassurons-nous, les indices bibliques d'une nouvelle terre où on serait sur un nuage en train de jouer de la lyre n'existent pas vraiment. Ce sera un peu comme notre monde actuel, mais sans tout ce qui l'abîme. Ce sera un peu comme aujourd'hui, mais tout en mieux. Il y aura encore, par exemple, à n'en pas douter, des cascades étourdissantes, des lagons bleu turquoise, des étendues sauvages. Mais nous aurons alors le plaisir et le loisir de les parcourir et d'en profiter pleinement. Nous aurons toujours un corps, mais ce sera un nouveau corps, parfait, sans le poids du péché, de l'âge et de la maladie sur lui. Nous travaillerons encore, mais notre travail ne sera plus pénible. Et puis aussi, nos relations les uns avec les autres seront transformées. Elles seront plus intenses, plus vraies, plus profondes et jamais conflictuelles. Notre héritage sera également une demeure au cœur de ce nouveau monde. Une demeure, nous dit la Bible, que Jésus lui-même nous aura préparée. On peut donc imaginer qu'on ne sera pas déçu du voyage et qu'elle nous plaira. Moi, la mienne, pour l'instant, je ne peux que me la représenter avec une cheminée pour l'hiver et une place à l'ombre à proximité d'une rivière pour l'été. Mais on verra. Mais plus encore, une demeure qui sera préparée spécialement pour nous et qui voudra donc dire qu'on est attendu individuellement, qu'on est enfin vraiment chez nous, qu'on appartient à quelqu'un là-bas et qu'on est aimé. Et notre héritage, enfin, et surtout, bien sûr, sera simplement de rencontrer Dieu face à face et de vivre tangiblement avec lui. Notre héritage sera de passer des millénaires à explorer les profondeurs et la magnificence de l'être infini de Dieu. Et d'avoir toujours quelque chose de plus merveilleux et de plus passionnant à découvrir encore de lui. Oui, voici ce qui nous attend bientôt, lorsque Jésus reviendra et qu'il rétablira toutes choses. Cela vous fait-il envie? Et si oui, y pensez-vous parfois? Moi, je sais que j'aime vraiment penser à tout cela. J'aime vraiment m'imaginer ce que je vais découvrir, ce que je vais ressentir et surtout ce que je vais faire concrètement. Une journée type sur la nouvelle terre. Et sortir ainsi de mon quotidien pour me projeter vers cet avenir prochain a un effet particulièrement étonnant sur moi. Cela me remplit de joie. Cela me maintient dans une forme d'attente joyeuse. Mais une attente, en fait, où le plaisir commence déjà. Il n'est pas encore effectif, mais en même temps, il fait déjà ma joie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme à Noël pour les enfants. Moi, quand j'étais petit, le jour de Noël représentait toujours un moment unique. C'était le summum de mon année. Pour les cadeaux, bien évidemment, mais aussi pour l'ambiance, pour la joie familiale. Et bien avant, je sentais cette impatience qui montait et qui grandissait en moi. Et en fait, je me rends compte que cette attente poussait petit à petit toutes mes autres préoccupations et occupait de plus en plus mes pensées. Et du coup, elle participait déjà à la fête quelque part. Elle était comme les prémices de ce que je savais qui m'attendait quelques semaines plus tard, et elle réjouissait déjà mon cœur en avance. Ainsi peut-il en être pour nous aujourd'hui avec la perspective du ciel. Voulez-vous connaître une joie inébranlable, indépendante des circonstances? Eh bien, gardez la pensée de l'éternité au cœur. Entretenez-la et faites-en dès aujourd'hui l'objet de vos délices et de vos pensées. Prenez le temps de rêver à l'éternité. Oui, prenons le temps de rêver à l'éternité. Ce sera une magnifique source d'espérance qui grandira en nous et qui influencera sans nul doute notre perception du quotidien. Nous concluons. Voici donc à travers ce rapide panorama tout ce que peut nous offrir le fait de vivre aujourd'hui avec la pensée de l'éternité dans notre cœur au quotidien. Je résume. Un recentrage essentiel de nos priorités sur cette terre face à toutes les idoles et toutes les distractions qui se dressent devant nous. Un lâcher-prise salutaire face à nos manques de bonheur ou de justice. Un lâcher-prise qui nous permet de ne pas nous rester bloqués, mais de continuer à avancer. Une paix bienfaisante qui provient du véritable sentiment de sécurité de celui qui sait de toute façon comment se terminera son histoire. Et enfin, une attente joyeuse qui pressent toute la beauté de ceux qui se rapprochent et qui s'en nourrit jour après jour jusqu'à ce qu'elle déteigne dans sa vie. Chers amis, si Dieu nous a fait la grâce de nous révéler ces choses à l'avance, en partie en tout cas, car comme pour les cadeaux de Noël, il est bon d'avoir quelques surprises. Mais si Dieu nous a fait la grâce de nous révéler ces choses, je me dis que ce n'est pas pour rien. Non, c'est parce qu'il veut qu'on s'y appuie vraiment dessus, afin notamment de pouvoir faire face à toutes les luttes et à tous les défis qui se présentent à nous. Alors, sachant cela, n'hésitons pas. Emparons-nous ce matin de toutes ces vérités. Imprégnons-nous de ces réalités et qu'au fond de nos cœurs, ce soit dorénavant toujours la pensée de l'éternité qui éclaire chacun des instants de nos vies. Que Dieu nous en fasse la grâce et que toute gloire lui en soit rendue. Amen.